Coucou Gitan, comment ça va?
Coucou Adja, très bien, ça va, merci, et toi?
Ouais, ça va. Vraiment, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Je t'avais demandé ça il y a un petit moment, mais bon, à chaque fois, voilà, moi, j'étais pas trop prête à reprendre. Et à chaque fois, tu m'as dit, t'inquiète pas, on te prendra quand tu seras prête. Donc là, c'est bon, donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui.
Avec grand plaisir, et merci à toi pour cette invitation, du coup.
Ah, c'est gentil. Alors, Citan, tu es connue sur Instagram comme Budgetiz. Tu as 35 ans, tu es maman de deux enfants et tu vas nous raconter un petit peu ton parcours, ton business et voilà ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui. Donc, je te laisse te présenter.
Alors, comme tu l'as dit, hein, donc moi, c'est Citan. Je suis originaire de Guinée. J'ai deux enfants. Ma fille va sur ses 13 ans et mon fils sur ses 11 ans. Mmh. Et en fait, tu veux savoir un petit peu comment est né Budgetiz ?
Oui, après, là, d'abord, ce que tu peux me dire aussi, c'est quelle est l'autre origine de tes enfants ? Parce que je sais qu'ils ne sont pas juste guinéens.
Ouais. Alors, mes enfants sont des purs produits d'Afrique de l'Ouest, je dirais. Donc, je suis mariée avec un Peul qui a une maman mauritanienne, donc avec toute la famille basée au Sénégal.
D'accord.
Et un papa origine mauritano-malienne.
D'accord.
Voilà. On dirait Mauritanie, mais village installé au Mali. Donc, en gros, je ne sais pas trop
de
dire.
Oui.
L'Afrique de l'Ouest.
Ouais. Okay. Non, mais c'est vrai que, enfin, parce que là, il y a les frontières qui font que, mais à la base, ça reste quand même un grand peuple. Donc,
exactement.
On se comprend.
T'as très bien résumé, c'est exactement ça.
Ouais. Et c'est un, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as grandi?
Alors, moi, j'ai grandi, donc, à ma naissance, mes parents habitaient Trappes. Mm-hmm. J'y ai vécu 6 mois. et ensuite, en fait, ils avaient acheté une maison dans la campagne, donc c'était dans les Yvelines, à mi-chemin entre Rambouillet et Dreux. Donc, c'était vraiment la campagne. Et du coup, une fois que la maison a été livrée, j'étais bébé, hein. Et du coup, j'ai grandi dans ce village-là jusqu'en troisième. C'est jusqu'en troisième. Et quand je dis village, c'est presque un hameau. Il y avait même pas la poste pour te dire dans le village. Il y avait pas de boulangerie. Il y avait rien. Il y avait des habitants et un bar. Parce que voilà, on connaît les bars, voilà. Et donc voilà, pour te dire, même il y avait une école, mais c'était tellement petit que l'école regroupait 3 communes.
Ah oui.
Et que par exemple on faisait le CP en quart de ramassage, donc on partait le matin en quart de ramassage pour aller dans un autre village, le CE1 c'était dans mon village, le CE2 c'était dans un autre, enfin voilà, c'était un petit peu réparti comme ça. Et on se réveillait le matin, il fallait monter dans le quart de ramassage scolaire, et donc voilà.
Ok. Et en termes de diversité, alors, je me demande comment ça se passait, alors.
C'est simple. Moi, j'ai toujours été la seule noire de ma classe. Donc, dans le village, il y avait une deuxième famille d'Africains. Donc, c'était des Sénégalais. On était les deux seules noires du village, les deux seules familles de noires du village. Et parfois, du coup, j'avais... il m'arrivait d'avoir... un membre de cette famille-là dans mon école, si on tombait sur une année où ma classe et sa classe étaient dans la même école.
Ah ouais. Sinon, t'étais la seule noire.
Ouais, mais exactement, tout à fait.
Quand même. Parce que tu vois, moi, j'ai vécu le fait d'être la seule noire de ma classe, où des fois on était deux, donc c'était parfois un peu compliqué, mais bon, enfin voilà. Mais j'avoue que seule noire de l'école, quand même, enfin voilà. Et ça a été, t'as pas subi de trop de brimades, des choses comme ça, ou?
Alors, la chance que j'ai eue, c'est que ma grande sœur, donc on a 6 ans d'écart, ma sœur et moi, elle avait fait le passage un peu avant moi. Je sais que pour elle, ça n'a pas été facile. Elle a même eu des insultes et tout à son époque. On l'a traité de noirot et compagnie. Mais moi, personnellement, non. Et la chance que j'ai eue, c'est que mon frère et moi, on n'a pas beaucoup d'écart et que parfois, on se retrouvait dans la même école. Et lui, c'était un garçon. Donc, j'avais, entre guillemets, la protection de mon grand frère qui faisait que, on ne s'attaquait pas forcément à moi. Et d'une manière générale, quand même, les enfants étaient quand même assez bienveillants.
Bon, ça va. Bon, tant mieux, parce que j'imagine que si ça avait été comme ta sœur, ça aurait forcément pas forcément été évident, quoi.
Ah oui, non, c'est clair. Bah, pour le coup, moi, j'ai beaucoup aimé ces années à la campagne, et elle a complètement détesté. Hein. Donc, effectivement, je pense que ça a un impact après sur notre ressenti et sur le fait qu'on apprécie ou non la vie là-bas.
Clairement. Et donc, tu étais là-bas jusqu'en troisième. Et après, quel a été rapidement ton parcours scolaire, le reste de ton parcours scolaire et ton parcours professionnel?
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents se sont séparés quand j'étais en troisième. Donc, ma mère est retournée s'installer à Trappes. Donc, je connaissais parce que j'avais de la famille là-bas et que je venais en vacances à Trappes. Oui. Alors, ça me fait rire maintenant que je m'y porte parce que c'est archi pas un lieu de vacances. mais on passait des bons moments. Enfin, ouais. C'est là qu'on voyait des gens qui nous ressemblaient. Enfin, voilà, c'était l'époque des après-midi, des soirées, des machins. Donc voilà, on va dire j'ai découvert la life à ce moment-là. Et du coup, quand je suis arrivée en troisième, la première chose qui m'a frappée, c'est que à la campagne, j'avais un niveau moyen, on va dire. J'ai jamais eu à faire trop d'efforts pour avoir un bon niveau scolaire. Donc voilà, j'étais dans la facilité. Mais quand je suis arrivée à Trappes, on me prenait pour un génie. C'est...
Ah ouais.
Parce que le niveau n'est pas le même, en fait. Oui. Et ça, on s'en rend pas compte quand on est dans le milieu. Mais il y a trop de choses qui jouent sur le niveau scolaire. Enfin, le fait que les enfants, par exemple, ont des parents qui ne savent ni lire ni écrire, bah, quand ils rentrent chez eux, au niveau des devoirs, c'est pas géré de la même manière. Du coup, bah, les professeurs, mine de rien, ils s'adaptent et ça tire le niveau scolaire vers le bas. Donc voilà, je suis arrivée, on me prenait pour un génie en troisième. Oui, tu feras des grandes études, machin. Donc après ça, j'ai fait un bac ES et un DUT technique de commercialisation. Et suite à l'obtention de mon diplôme, comment ça s'est passé? Bah, je suis allée, j'ai commencé à chercher du boulot. Et le premier CDI que j'ai eu, c'était dans l'automobile. Et une fois que j'ai signé ce CDI-là, bah, tous mes emplois qui ont suivi, c'était dans l'automobile.
D'accord. Voilà. Et donc, tu me disais que tu avais toujours eu un pied dans le salariat et un petit peu dans l'entrepreneuriat. Parce que je sais qu'avant Budgety, tu avais une boîte. Tu crées exactement, voilà, pour les enfants. Mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur à la création de Budgetis même?
Alors, déjà, je vais retourner un petit peu sur mon parcours entrepreneurial. Quand je te dis que j'ai toujours eu un pied, c'est que j'avais commencé petite. Alors, ma mère, elle tressait les gens à côté de son travail. Et au départ, quand j'étais petite, je l'aidais à finir les bouts. Et puis après, comme elle a vu que j'étais manuelle, bah, je l'aidais à tresser. Donc, parfois, elle me donnait un petit peu de sous, parfois. Et donc, ensuite, je me souviens que même quand j'étais en troisième, parce que quand j'y pense là, je me dis que, je sais pas, en troisième, on a quel âge? Ma fille, elle est en cinquième, alors 13 ans, ouais, voilà, quelque chose comme ça. 14-15 ans, je tressais déjà des têtes entières, et on me payait pour ça. Et comme j'étais très manuelle, je savais par exemple poser du papier peint. Bah, parfois, j'allais poser le papier peint chez les gens me payaient.
En troisième?
Garde d'enfants. Ouais, c'est arrivé très tôt, ça. Alors, le papier peint, ça devait être peut-être en seconde, quelque chose comme ça. Et je me souviens que j'avais même eu un chantier d'une dame qui avait acheté une maison neuve et que j'avais travaillé avec les mecs de la plateforme du BTP. Ça me fait rire quand je... Mais voilà. Enfin, je me suis toujours débrouillée, en fait, de la garde d'enfants. Après, c'était le ménage l'été dans les entreprises. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et vraiment, un entrepreneuriat pur, la première chose que j'avais faite, c'est que j'aimais beaucoup... Bah, du coup, tu vois, c'est suite aux vidéos YouTube de ta sœur,
Aïcha. Oui.
Voilà, j'étais plongée dans tout ce qui était routine capillaire et compagnie. Et je kiffais la marque Keracare. Mais en fait, à Trappes, c'est pas une marque qu'on trouvait facilement. Et j'étais allée au culot. J'avais réussi à trouver les coordonnées de l'entrepôt, Keracare France.
Ouais.
Et j'avais même pas de cabis, hein. Et je suis allée au culot voir le monsieur en lui disant, oui, j'aimerais bien vendre des bons produits, machin. Et en fait, j'avais acheté plein de cartons de tous les produits Keracare. Et en fait, j'avais créé une petite présentation pour expliquer, en fait, comment construire sa routine capillaire. Et je faisais des espèces de réunions tupperware de cheveux.
Waouh, mais c'est génial.
Et je vendais les produits à ce moment-là. D'ailleurs, c'est grâce à ta sœur Aïcha, il faudrait que je lui dise. C'est
ouais, bah je vais lui dire dès qu'on aura fini. Ah mais c'est trop bien, vraiment c'est super. Ça je savais pas et ouais, je trouve que c'est vraiment top parce que même sans forcément habiter loin, c'était vraiment difficile à une époque de réussir à avoir des produits capillaires à proximité, mais de là à penser en fait à contacter l'entrepôt et à créer tout un truc, tout un business, là il y a vraiment du level, donc ouais, franchement bravo.
Et après ça, donc il y a eu Tiny Wax, comment c'est né? Alors c'est suite à mon deuxième, ouais c'était mon deuxième, oui, deuxième congé maternité. J'avais une idée qui pour moi me semblait révolutionnaire et effectivement à l'époque je pense avoir été dans les premières à faire ça. J'alliais en fait le wax à tout ce qui me touchait à la puériculture, que ce soit prêt-à-porter ou vraiment les accessoires, à savoir les protèges carnets de santé, les capes de bain et le prêt-à-porter pur. Et c'est pareil, la couture, j'ai appris en regardant des vidéos YouTube. J'ai pas du tout pris de cours de couture. Donc voilà, comme je suis manuelle et assez débrouillarde, j'ai commencé à regarder. Mes premiers ouvrages étaient à vomir. Mais j'ai pas lâché et honnêtement les derniers produits finis que livraient c'était des bijoux et je sais que j'ai des amis qui avaient acheté à l'époque des vêtements et ça se transmet vraiment de frère de sœur à sœur à sœur à sœur de génération en génération, donc c'est cool.
Ah ouais, c'était vraiment de la qualité quoi.
Ouais, honnêtement au niveau des finitions, enfin je suis assez maniaque je dirais et les finitions c'était nickel et justement c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté cette activité-là, c'est qu'en fait, quand on fait de l'artisanat, on n'a que deux mains. Et quand on fait les choses soi-même, on est limité. Et si on veut vivre de son activité, il faut soit vendre très, très, très cher. Donc, je ne me voyais pas faire ça. Ou soit produire plus pour pouvoir dégager peu de marge sur un produit, mais en vendre suffisamment pour pouvoir se dégager un revenu. Et quand j'ai commencé à démarcher les ateliers, j'ai pas trouvé la qualité. Enfin, généralement, ils bâclaient. Et du coup, je me retrouvais à ne pas faire trop de pubs pour ne pas avoir trop de commandes. Ah et oui. Voilà, ça commençait un petit peu à tourner au vinaigre. Donc je faisais toute seule. Et il y a eu un moment où je pouvais plus. Je pouvais plus voir une machine à coudre. Je pouvais plus. Ça y est, j'ai fait un burn-out de la couture et j'ai décidé de tout arrêter. Et j'avais toujours ce compte Instagram qui dormait sur le côté. À l'époque, je crois que je devais avoir 2500 abonnés sur Tiny Wax. Et d'ailleurs, en y repensant, j'avais fait des beaux partenariats. Ouais. À l'époque, par exemple, j'avais fait un partenariat avec Baby à tout prix, qui aujourd'hui a je ne sais combien d'abonnés. Ouais. Avec Chéri Falouna, avec Monsieur Tombola, ça m'avait bien ramené. Ah. J'avais un projet avec Absat aussi. Enfin, honnêtement, j'avais quand même réussi à bien développer le truc, mais ouais. Finalement, je me suis retrouvée prisonnière de mon business. Mmh. Et donc, voilà, j'ai décidé de mettre cette activité-là de côté. Et la solitude a également eu raison de moi, donc je suis retournée dans le salariat à ce moment-là.
Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple de faire les choses seule, soi-même, à la maison. Enfin, voilà, tout ce que t'as décrit, en fait, au final, c'est compréhensible. Mais après, t'as fait ça aussi pour le bien de ton business, hein, parce que je pense que pour toi, c'était mieux d'arrêter, mais en étant quand même bien et avec une belle image, que d'arrêter parce que, au final, ton image a été complètement écornée, que ça se passait mal, que les finitions étaient pas top. Enfin, voilà. Donc, j'ai envie de dire, quitte à arrêter, autant arrêter de la meilleure des façons, quoi.
Exactement. Mmh. Exactement. Parce qu'effectivement, je pouvais pas renier sur, la qualité et enfin, voilà, je me voyais pas par exemple avoir un client qui me fait confiance et de lui livrer sa commande 3 semaines après parce que je suis débordée, c'était juste pas possible. Le customer care, c'est quand même quelque chose que j'avais à cœur, et quand j'ai su que je pouvais plus tenir mes délais ou que la qualité pouvait se dégrader, j'ai préféré effectivement arrêter. Et du coup, j'ai utilisé. Enfin, ce compte Instagram-là, il a dormi pendant des années. Je l'ai jamais, je l'utilisais pas du tout. Et dans mon entourage, j'avais souvent des personnes qui me sollicitaient pour avoir des conseils en gestion des finances personnelles. Alors, je parlais pas nécessairement d'argent dans mon entourage, mais les gens me voyaient comme quelqu'un qui gérait bien son argent. Alors, je peux te dire pourquoi, je ne sais pas, mais je gagnais pas des milliers des cents. Et c'est vrai que on voyait que j'arrivais à voyager en famille, par exemple, j'avais fait le pèlerinage en 2016, c'est quand même un montant assez conséquent. Voilà. Plus, enfin voilà, plein de choses que j'arrivais à mettre en œuvre.
Et puis avec tous les petits side business que tu as eu avant aussi, peut-être que tout ça, peut-être. Ça fait que, oui.
Peut-être. Et du coup, on me posait des questions sur la gestion des finances personnelles et je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Le compte Instagram, plutôt qu'il dorme comme ça, je vais essayer de le réutiliser pour pouvoir éduquer les gens et les femmes plus particulièrement financièrement parce que c'est très important. Et c'est comme ça qu'est né Budgetine. Donc, de base, c'était juste un compte Instagram sur lequel je donnais des conseils en gestion des finances personnelles.
Oui. Et je me souviens, en plus, c'est quand tu as fait le switch et j'ai vu passer de TinyWax à Budgetine. Au début, je me suis dit, OK, bon, on va voir. Et puis après, en fait, dès les premiers posts, j'ai aimé. Vraiment, je me suis reconnue dans ce que tu disais. J'ai compris ce que tu expliquais. Et j'ai trouvé. Comment dire ? Il y a des choses qui peuvent nous sembler logiques, mais qu'on n'arrive pas forcément à appliquer. Et là, direct, en fait, tu as commencé à donner des clés, à expliquer les termes vraiment comme, enfin, les choses comme il faut qu'elles soient. Et ça a été une révélation. Et là, à partir de là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc si tu as vraiment, c'est quelqu'un derrière, en fait, les petites pièces de couture et tout, enfin, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une réflexion. Et j'ai trouvé que c'était top et que de toute façon, même, je pense que. L'engouement, il a vraiment pris parce que quand je vois aujourd'hui, tu es partie de 2000 abonnés. Aujourd'hui, je pense que tu es dans les 20 000, si je ne me trompe pas.
Oui, à peu près.
Voilà. C'est qu'il y a vraiment un énorme engouement et qu'il y a un besoin, il y a une demande et que c'est nécessaire, en fait, de s'éduquer parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Et si ce n'est pas quelque chose qui nous est inculqué par nos proches, au final, ça reste compliqué.
Exactement. En fait, effectivement, comme tu le disais, on ne l'apprend pas à l'école. À l'école, on nous apprend à lire et à écrire, et je pense qu'on se dit que c'est suffisant pour que les gens fassent la démarche eux-mêmes d'aller se renseigner pour s'éduquer. Mais le souci, c'est que quand on ne sait pas qu'on a un problème, on ne va pas essayer de se chercher des solutions. On vit dans un pays dans lequel le découvert, c'est quelque chose de banal. On a banalisé ça. Alors que finalement, c'est le découvert, c'est vivre avec de l'argent qui ne nous appartient pas, qu'on emprunte à la banque, et que la banque, nous prête moyennant un intérêt, donc qui sont les agios, mais finalement c'est vivre avec l'argent d'autrui, enfin comme si c'était notre argent, mais c'est pas normal en vrai.
Non, mais tu sais ce que tu dis, c'est drôle parce que quand j'ai fait mon BTS, j'étais en alternance et je travaillais à la Société Générale et je devais acheter un truc, mais j'avais plus beaucoup de sous et donc je dis à ma collègue, ah ben non, là j'ai plus beaucoup de sous, ça va être compliqué et tout. Et elle me dit, je t'en fous, fais une demande de découvert, hein, t'as le droit, et puis t'as qu'à l'utiliser, quoi. Moi, je vis tout le temps sur mon découvert, hein, voilà. Et c'est là que l'engrenage a commencé. Parce que, tu vois, c'est ça, moi, pour moi, c'était grave d'être à découvert, tu vois. C'était quelque chose de grave, c'était, il faut pas. Et là, elle commence à me dire, non, mais c'est pas grave, enfin, voilà. Et donc, moi, elle me dit ça à moi, en tant que sa collègue, j'avais quoi, 19, 20 ans. Et là, je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle doit dire à ses clients, en fait? Tu vois?
C'est exactement ça.
Oui, c'est ça. Et après, c'est comme tu as dit, c'est quelque chose qui se banalise, c'est quelque chose qui se normalise, alors qu'en fait, ça ne doit pas l'être. Ce n'est pas notre argent. Donc, si on n'a pas les moyens de l'utiliser, alors faisons en sorte de ne pas le faire. Quoi.
Et le problème que tu as bien relevé, c'est que parfois, on pense que le banquier est là pour nous éduquer financièrement. Mmh. Mais le banquier, c'est un commerçant qui est là pour te vendre des prestations. C'est pas ton parent, en fait. Il n'est pas là pour ton bien. Il est là, lui, pour faire du business. Et bon, certains sont mieux intentionnés que d'autres. Mais moi, c'est pareil. J'ai travaillé en banque. Alors, pendant mon DUT, j'ai fait un stage en banque. Et comme ça s'était bien passé, après, ils m'avaient repris pour travailler l'été. Et quand je voyais, alors, la routine, c'était de venir, d'arriver le matin. Donc moi j'étais au guichet, pendant que j'étais au guichet, les conseillères, elles étaient dans leur bureau et elles avaient un listing de toutes les personnes qui avaient des prélèvements rejetés. Alors toutes les personnes qui étaient à découvert et sur lequel il y avait un prélèvement qui se présentait. Mmh. Et elles devaient les appeler pour savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je laisse passer ou pas, est-ce que vous prévoyez d'avoir une rentrée d'argent ou pas. Et je peux te dire que les lettres d'info à 11 euros, donc à l'époque c'était 11 euros, ça y allait, hein, à tire-larigot. Et 11 euros. Alors que de base, si tu sais dans quoi tu peux tomber, tu vas pas mettre le pied dedans. Mmh. Mais comme les gens ne savent pas, et que parfois, ils ne consultent même pas leur compte en banque, je sais que j'ai une amie qui s'était retrouvée avec des frais bancaires, je crois que sur une année. Parfois, ça peut monter à 500 euros, mais on s'en rend pas compte, en fait. On s'en rend pas compte. Donc maintenant, je sais qu'au niveau national, ils ont mis un truc en place, ils sont obligés d'envoyer le montant annuel des frais bancaires. Donc là, ça permet parfois de se prendre une claque et de se dire, OK, il est peut-être temps là que j'essaye de trouver une solution. Mais avant, ça n'existait pas et c'était très compliqué.
Oui, clairement, clairement. Mais comme tu as dit, hein, de toute façon, les banquiers, c'est vraiment des commerciaux. Ils ont des objectifs. Hein. Quand toi, tu vas chez eux pour ouvrir un livret A, tu te dis, bon, moi, je vais ouvrir un compte épargne. Mais eux, en fait, ils leur font un petit bâton et ça leur fait une prime à la fin du mois. Donc, clairement, les intérêts ne sont pas du tout les mêmes. D'où l'importance de réussir à être éduqué financièrement. Mais quand on n'a pas les outils et qu'on ne sait pas faire, et ben, au final, ben, on reste dans cet engrenage-là.
Tout à fait. Alors après, une fois qu'on a décelé qu'on a un problème, on peut aller sur YouTube, on peut aller sur Internet, tenter de se renseigner. Mais moi, il y a une chose qui me tient à cœur, c'est que les gens apprennent à se connaître et qu'ils apprennent à réfléchir par eux-mêmes. Parce qu'en fait, quand on va sur Internet, tout nous tombe tout cuit dans le bec et on ne fait pas la démarche d'essayer de savoir, ouais, mais est-ce que c'est adapté à moi ou non? Un exemple tout bête, je sais qu'il y avait une méthode, par exemple, quand on a commencé à se documenter comment gérer son budget, on va avoir une méthode qui va s'appeler la méthode des 50-30-20. Donc 50% de ton salaire que tu vas mettre dans tes dépenses fixes, 30% pour le plaisir et 20% pour l'épargne. Et en fait, parfois, il y a des personnes qui vont vouloir appliquer ça à la lettre et qui vont, entre guillemets, se forcer à dépenser leurs 30% d'épargne de plaisir parce que ils se sont alloués cette somme-là et que ça serait dommage. Alors que il y a des gens, par exemple, pour qui juste se promener dans la forêt, c'est un plaisir. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose de payant. Donc, si on se met 30% pour ça, c'est pas adapté à ma personne, en fait. Donc, l'objectif de base, et moi, ce que j'enseigne, c'est un, déjà essayer de comprendre quelle est sa relation à l'argent. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Hein. Et moi-même, je suis en plein dedans. Je donne des conseils, mais je ne suis pas parfaite. Alors oui, je ne suis pas à découvert. Oui, j'arrive à épargner. Oui, je me débrouille. Mais le rapport à l'argent, c'est bien plus profond que ça. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de Tiny Wax, et je sais qu'une des problématiques que j'ai rencontrées et qui me suit encore jusqu'à aujourd'hui, c'est la difficulté que je peux avoir à chiffrer ou à tarifer très cher. À l'époque, si je sais que j'ai que deux mains et que j'ai envie de gagner, par exemple, 2000 euros net, ça veut dire qu'il faut que je vende, je te dis une bêtise, par exemple, 20 articles à 100 euros. Moi, je vais me dire, ouais, mais je vais pas assez, c'est trop, je peux pas. Et en fait, ça, c'est le problème, c'est le rapport à l'argent. Pourquoi c'est trop? Enfin, qu'est-ce qui fait que, pourquoi t'as honte, pourquoi tu n'oses pas? Et en fait, tout ça, il faut essayer de creuser. Donc ça, c'est pour toute la partie entrepreneuriale, mais pour la partie vie de tous les jours, c'est aussi essayer de comprendre, quand je surconsomme, qu'est-ce que j'essaye de nourrir? Les dépenses sont très souvent liées aux émotions. Et moi, je l'ai ressenti aussi, parce que je suis humaine. Sur les moments où on se sent, on n'a pas trop le moral, et ben on a envie de fumer notre carte bleue. Et c'est normal, mais il faut juste essayer d'en être conscient. Et de se dire que en fait, nos blessures, on va pas réussir à les combler en consommant et en surconsommant. Donc voilà, c'est des prises de conscience comme ça. Donc étape numéro 1, c'est travailler son rapport à l'argent. Étape numéro 2, c'est apprendre à se connaître. Qui tu es? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Où tu veux aller? C'est quoi tes projets? Sous combien de temps t'aimerais les réaliser? Donc ça, c'est vraiment la deuxième grosse étape à faire. Et ensuite, alors celle-ci, c'est la plus importante, une des plus importantes. 3, faire son état des lieux. Là, je prévois un post Instagram, mon prochain, c'est ça. Ouais. C'est de se dire, arrêtez de faire votre budget au doigt mouillé. Allez, hop, on garde le sens du vent et on se dit, allez, pour la nourriture, je vais mettre 200 euros, ça devrait être bon. Non,
ouais, alors,
regarde, exactement, regarde, quelles sont tes habitudes de consommation. Si en nourriture, tu dépenses 500 euros, fais la paix avec ce montant-là et arrête de vouloir toujours tirer les budgets vers le bas. Parce qu'à un moment, on peut se restreindre, oui, peut-être de faire du shopping, mais quand même de se nourrir, à un moment donné, non. si on aime la bonne nourriture et que pour nous, on dépense 500 euros par mois, eh ben, dépensons 500 euros par mois. Soyons OK avec ça et établissons un budget en fonction de nos habitudes de consommation. Donc oui, après, si on veut épargner plus, il va falloir forcément rogner sur une dépense, mais pas nécessairement la nourriture. Enfin, parce que voilà, la nourriture, c'est quand même la base. Dans un premier temps, on va par exemple essayer d'alléger ces prélèvements. Parce que ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris à faire, mais il est important de le faire. Moi, perso, par exemple, je change de fournisseur Internet presque tous les ans. J'ai pas de problème. Ouais, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Ben, je les ai tous fait, hein, sauf Orange, parce que eux, ils aiment trop allumer les gens. Mais,
ouais, c'est super.
Parce qu'en fait, ce qu'ils font, malheureusement, ce qui se passe dans l'industrie téléphonique, c'est qu'ils font les yeux doux aux nouveaux clients, mais ils ne fidélisent pas les anciens. Donc, ils vont dire 12 mois. Ouais, c'est ça. Donc, je vais avoir une offre 12 mois, c'est super, machin. Et puis, passé 12 mois, tu vas basculer, parce que parfois, c'est multiplié par deux, le montant. Ben, non, moi, je veux pas. Donc, au bout d'un an, bon, ben, je sais que tous les mois de décembre, eh ben, c'est ma période où je vais renégocier. Alors, parfois, en appelant le fournisseur actuel et en lui disant tel fournisseur me propose tant, qu'est-ce que vous faites ? Ils arrivent à s'aligner. Mais ça, il faut le faire avec tous les fournisseurs. C'est juste pour l'énergie, je suis encore vieux de la vieille chez EDF et GDF. Mais pour tout le reste, assurance auto, assurance habitation, enfin tout, je fais jouer la concurrence et j'obtiens toujours gain de cause.
C'est voilà. Ce que tu dis, hein, parce qu'on n'y pense pas. On n'y pense pas du tout. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, enfin, tu vois, tout à l'heure, tu as dit que ça, c'est un poste que tu prépares. Mais à chaque fois que tu fais un poste, ça va être sur un sujet qui va être bateau, entre guillemets. Mais tout à l'heure, ce que tu disais pour les courses, ben moi, c'était pareil. Quand je faisais mon budget, parce que je faisais un budget, mais au final, j'ai exposé tous les mois, je ne comprenais pas pourquoi. Et donc, on se disait avec mon mari, ben voilà, on en a pour 300, 350 euros par mois. Parce qu'en regardant ce qu'on dépense au drive, parce qu'on fait les courses au drive, et ben c'est ce qui revient. Avec 50 euros à la boucherie, et je ne sais pas, 50 euros pour les produits frais, pour les fruits et légumes frais. Mais au final, les petits franprix qu'on fait par-ci, par-là, on descend à l'épicerie, les petites cartes comme ça, les Uber Eats, des choses comme ça, eh ben, on les budgétise pas parce qu'on se dit c'est des petits montants, c'est pas grave, c'est rien, c'est comme si, c'est comme ça, c'est approximatif. Et à partir du moment où j'ai vraiment regardé, un jour, j'ai pris nos deux relevés, parce qu'en plus, il y a ce qu'on fait sur notre compte joint, mais après, il y a aussi nos petites dépenses qu'on fait chacun. Et là, je me suis rendu compte que le budget que j'avais établi à la base, mais c'était pas du tout le bon. Et bah, en fait, on comprend pourquoi est-ce que tous les mois, bah, on a des difficultés. Bah, parce que dès le début, et bah, la marche à suivre n'est pas la bonne.
Et la démarche que tu as faite, j'ai fait exactement la même. C'est-à-dire qu'à l'époque, je faisais mes courses au mois. Et quand on me demandait, tu dépenses combien ? Alors moi, j'étais pire que toi, je disais 270 euros. Parce que je me contentais de prendre le montant bah, mensuel chez Leclerc. Pareil, j'ajoutais la boucherie et en vrai de vrai, quand je me suis penchée, bah, j'étais plus aux alentours de 400-500 euros. Donc maintenant, avec l'inflation, on a dépassé un peu les 500 euros, mais en vrai, c'est ça. Donc si de base, tu pars en faisant ton budget avec un montant qui est faussé, tu ne tiendras pas ton budget. Et l'information que tu vas envoyer à ton cerveau, c'est que le budget, c'est nul, c'est restrictif, que tu n'arrives pas à t'y tenir. Mais de base, c'est toi qui es dans l'erreur. Donc il faut vraiment partir avec des vraies données chiffrées et ne rien laisser au hasard. C'est-à-dire que même le pain que tu vas acheter tous les jours, 1 euro, 1 euro, 1 euro, bah, en sachant qu'il y a 31 jours par mois, bah, ça fait 30 euros. Donc juste ça, déjà, c'est ça fait un écart, tout simplement. Et moi, je sais que ce que j'aime faire, c'est essayer de compartimenter un petit peu. J'avais fait un post où j'expliquais, je range mon argent comme les tiroirs de Marie Kondo. Bon, Marie Kondo, maintenant, elle range plus ses tiroirs, mais ouais. T'as compris.
Les enfants, celle-là, ils l'ont eu.
Mais je compartimente. C'est-à-dire que je vais avoir un compte qui va être dédié au prélèvement. J'avais même un compte qui était dédié aux dépenses alimentaires avec lequel je payais tout. Donc, dès que le salaire arrivait, hop, les 500 euros, ils allaient directement dans ce compte-là. Et comme ça, je ne me mélangeais pas. C'était un petit peu le système des enveloppes, mais de manière un peu virtuelle. Et je retirais quand même une somme d'argent en espèces pour bah, quand j'ai envie d'acheter des petits trucs ou que mes enfants me demandent est-ce que je peux aller à la boulangerie, machin, voilà. Je leur donnais de cet argent-là, mais vraiment, l'objectif, c'est de se construire un budget réaliste qui va et ne pas nous faire nous tirer une balle dans le pied et nous permettre également d'accomplir tous nos projets, parce qu'on travaille pas juste pour payer nos factures, pour surconsommer et pour vivre au quotidien. On travaille aussi pour pouvoir construire des projets qui nous tiennent réellement à cœur.
Clairement. Et donc toi, ton objectif, c'est tout ça. Mais pourquoi est-ce que tu veux accompagner spécifiquement des femmes dans la gestion de leur argent?
Alors, les femmes... Alors moi, mes parents étaient divorcés. Donc, j'ai tellement vu ma mère galérer que les femmes, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Je sais que les mamans solo, il y en a énormément, elles galèrent beaucoup. Je sais que parmi ces mamans solo, il y en a énormément qui n'ont pas de pension alimentaire. Je sais que souvent, les femmes, elles ont la tête dans le guidon, il y a plein de choses qu'elles n'osent pas faire. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment d'aider dans la gestion des finances personnelles, mais dans sa globalité. C'est-à-dire que moi, je veux les aider à apprendre à négocier leur salaire. Je veux les aider à apprendre à développer un side business. Il y a plein de choses sur lesquelles les hommes n'ont aucun problème. Alors, je dis pas que les hommes n'ont pas de problème d'argent, mais en généralisant, ils ont quand même plus de cran que les femmes. C'est-à-dire que, par exemple, pour postuler une offre d'emploi, si un homme correspond à 2 des 10 compétences, il s'en fout, il va postuler quand même. Alors qu'une femme, tout de suite, elle va dire « Ah non, ça, je sais pas faire, ça, je sais pas faire. Bon, c'est pas grave, je postule pas, c'est pas pour moi. » Et au final, elle va se retrouver à stagner, en fait. Et elle va jamais évoluer. Et moi, j'ai vraiment à cœur de pouvoir les aider à s'en sortir. Et je sais également que les femmes, elles sont plus dans l'émotion que les hommes. Et j'ai vraiment envie de les aider à équilibrer ces émotions-là pour qu'elles puissent aller le plus loin possible.
Non, c'est top. C'est une belle mission. Vraiment, c'est une belle mission parce que après, je sais pas trop quelle est la population qui te suit le plus, mais je sais que moi, personnellement, et dans mon entourage africain, c'est pas quelque chose qu'on a forcément, en fait, être dans le side business. Donc, on a été pour céder, on va faire des tontines, des choses comme ça. Mais on va réussir à récupérer, en fait, de l'argent. Mais pour le dépenser, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire pour le dépenser, pour le garder, pour l'investir, on ne sait pas le faire. Et au final, tout le travail qu'on fait, il est perdu, puisque c'est soit tu travailles encore plus pour pouvoir essayer de survivre un petit peu, sinon ça ne sert à rien. Et donc, c'est pour ça que je trouve que vraiment ce que tu fais, c'est une belle mission, au final.
Après, dans la communauté noire, honnêtement, avec le recul que j'ai quand même beaucoup de personnes qui me suivent. Et effectivement, sur Instagram, on a tendance à suivre des personnes qui nous ressemblent. Donc, j'ai beaucoup de personnes de la communauté noire. Et là, je dénonce un gros manque de transmission de la part des parents. Franchement, un gros manque de transmission. Parce que dans notre communauté, il y a quand même des mamans qui arrivent à accomplir des choses incroyables. Mais je trouve que chez les Noirs, on est dans l'éducation par l'exemple. On va pas expliquer, on va parler, tu vois. J'ai une amie qui a sa meilleure amie qui est indienne et je sais que par exemple chez les Indiens il y a pas match, il y a pas match. On va t'expliquer, on va te dire par exemple ils vont donner par exemple des bijoux en or en lui disant ok la valeur aujourd'hui de cet or là il est de tant d'euros, garde-le et le jour où tu auras un réel gros projet tu pourras revendre ton or pour machin et on va pouvoir parfois utiliser cet or-là pour l'apport pour un appartement, on va pouvoir faire plein de choses. Alors oui, nous, on va voir nos mamans faire des tontines. Ben, on va se lancer dans des tontines. Mais si on te dit pas qu'il faut pas que tu dépenses cet argent-là n'importe comment, moi, je sais que il y a plein de gens de mon entourage qui ont fait des tontines. Aujourd'hui, tu leur demandes qu'est-ce que tu as fait ton argent, ils sont incapables de répondre. Alors que parfois, on se retrouve avec des... Tout à fait. Le principe de base, il est top. Mais si tu te lances dans la tontine sans savoir ce que tu as l'intention de faire de cet argent-là, honnêtement, je vais pas dire que ça sert à rien, mais presque. Parce que tu vas te retrouver avec une grosse somme d'argent. T'as pas l'habitude d'avoir une telle somme entre tes mains. Et donc, tu vas te prendre pour Bill Gates. Et hop, tu vas commencer à distribuer les billets et consommer. Mmh. Et il y a plein de choses, en fait. Pareil, les enfants, essayer de faire comprendre que vouloir à tout prix tout donner à son enfant, bah c'est pas ouf en fait en termes d'éducation, en termes de transmission. Alors je sais que beaucoup parfois ont été frustrés dans leur enfance et ils ne veulent pas que leur enfant vive les mêmes frustrations. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la frustration, elle fait partie de la vie. Donc essayer de leur expliquer aux enfants que s'ils nous réclament quelque chose, et même parfois, c'est même pire que ça, c'est que on n'attend même pas que l'enfant nous réclame, qu'on lui donne déjà.
C'est ce que j'allais dire. Des fois, les enfants, ils ont besoin de rien, mais nous, on va toujours trouver quelque chose à faire, en fait. C'est comme, t'as besoin de faire du shopping, par exemple. T'as une frustration, t'as envie de faire du shopping. Tu dis, bon, je vais être raisonnable, je vais rien acheter pour moi. Mais par contre, pour les enfants, ben là, il n'y a pas de raison, quoi. Il y a des fois où, par exemple, moi, personnellement, je vais me donner bonne figure en achetant des livres, en achetant des jeux éducatifs, des choses comme ça, alors qu'en fait, il en a plein et ils n'ont pas forcément besoin.
Bien sûr, tout à fait.
Donc, Citan, avec tout ce que tu fais maintenant avec ton business, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu t'organises avec tes enfants?
C'est simple. La chance que j'ai, c'est que mes enfants, je les ai rendus autonomes. Enfin, mon mari les a rendus autonomes très, 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 très tôt. Ma fille aînée, c'est, on dirait, la deuxième maman de la famille, en fait. Elle a 12 ans. Mais on dirait un adulte coincé dans le corps d'un enfant. Donc, j'ai pas de problème. Donc, où est-ce que j'habite? En fait, j'ai pas de collège à proximité, donc elle prend le bus pour y aller. Et à partir du moment où tu commences à prendre les transports, déjà, tu as un éveil qui est différent.
Oui.
Donc, ma fille, elle se gère toute seule. Hein. Donc, on a juste eu une difficulté l'année dernière. Elle a eu des soucis de santé, donc des soucis moteurs. Donc, j'ai dû faire la navette. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais arrêté de travailler et que je dépendais de la CAF, malgré moi.
D'accord.
Qui me fait la misère.
Oui. Mois de mars.
Ouais, exactement. Et du coup, honnêtement, mes enfants, ils se gèrent tout seuls. C'est pareil, mon fils, il va, maintenant, il a appris à se réveiller avec un réveil. Donc, il se prépare tout seul le matin, il va à l'école. Et puis, moi, je prends juste le relais le soir pour papoter, discuter de la journée, faire les devoirs. Et donc, voilà.
Ah, c'est cool.
Ouais.
C'est cool au moins de parce que déjà avoir son propre business, je pense que ça te fait quand même une petite pression sur les épaules. Il y a quand même pas mal de choses à faire. T'as tout ton travail de femme, de mère, de businesswoman. Et si déjà ce côté-là en fait il est allégé, je pense que ça doit être pas mal pour toi. Et puis même en fait ça fait que les moments que tu passes avec eux, c'est des moments de bonne qualité quoi.
Exactement, exactement. Et par contre pour ce qui est du business, alors c'est trop bizarre. Je me sentais plus productive quand il fallait que je gère mon travail de salarié et mon travail de budgétise. Donc là, je sais pas si c'est la fatigue qui retombe ou quoi, je sais pas. Mais tu vois, là, par exemple, je suis à temps plein sur mon business et j'ai pas l'impression de travailler à temps plein sur mon business, tu vois. Donc, j'ai peut-être besoin d'une période de relâchement, mais je sens que je suis quand même, plus productive quand je suis dans le jus, je dirais.
Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que là, aujourd'hui, tu alloues exactement le même temps alors que tu es à temps plein dessus que quand tu étais salarié? Donc au final, imaginons que c'était pas, je sais pas, peut-être 30% de ton temps. Et là, tu fais la même chose, toujours 30%, et tu as l'impression de faire moins parce que tu as plus de
temps. Oui, peut-être. Peut-être. Peut-être, mais tu sais, même quand je regarde la régularité de mes postes, là, ça fait un petit moment que j'ai rien posté. Enfin, bon. Il y a plein de choses qui font que la création de contenu, c'est quand même pas tout repos. Et puis parfois, on a l'impression de créer dans le vide parce que l'objectif, moi, c'est pas juste de créer du contenu, c'est aussi après de pouvoir aider les gens à prendre conscience qu'ils ont une difficulté et de les accompagner. Mais j'ai tout un travail à faire. Moi, je sais même que je suis en plein dedans dans le fait de proposer mes offres. Enfin, je sais pas si tu vois, mais je ne parle jamais de mes offres.
Oui,
c'est quand même.
Tu parles du budget Excel, t'en parles de temps en temps. Tu dis qu'il y en a un qui est gratuit, et c'est vrai. Mais c'est vrai que toute ta partie, parce que là tout à l'heure, par exemple, j'étais sur le Linktree et je me suis dit, mais en fait, t'as fait plein de trucs. Il y a les formations, il y a les fichiers Excel, il y a le podcast, il y a beaucoup beaucoup de choses. Et c'est vrai que oui, t'en parles pas tant que ça.
C'est ça, c'est ça. Donc là, j'en ai pris conscience. Et il va falloir que j'essaye de travailler sur ça pour bah, pour pouvoir aider les gens, en fait. Parce que je sais que pour beaucoup, le simple fait de lire des publications Instagram, ça va aider certaines personnes. Mais pour d'autres, elles vont avoir besoin d'être un petit peu plus prises par la main, ce que je comprends complètement. Et il faut que j'essaye de leur montrer que je suis là pour elles. Et donc, voilà.
Je comprends. Et donc après, là, j'ai deux dernières questions. C'est les questions que je pose tout le temps en interview. Est-ce que tu saurais te rappeler à quel moment est-ce que tu t'es sentie devenir mère?
Je dirais à l'accouchement.
Ouais.
Je dirais quand j'ai accouché, parce que enceinte de ma fille, c'était... Alors, déjà, j'ai vécu une grossesse particulière. Moi, ma mère est décédée quand... j'avais un mois de grossesse.
Ah oui, d'accord.
Donc pour ma fille, donc elle a pas connu mes enfants. Et en fait, cette grossesse-là, je l'ai pas vécue en mode... j'étais trop dans ma peine pour pouvoir me concentrer sur ma grossesse. C'était pas... Ouais, c'était beau, c'était magique. Oui, je sentais le bébé bouger. Enfin voilà, j'étais quand même en fusion et en osmose avec elle. Mais quand j'ai accouché, c'est là, quand on me l'a posé, là,
ouais.
Là, c'est indescriptible. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis sentie devenir mère.
Oh. Et bah, la dernière question, en plus, tu nous as parlé un petit peu de ta maman. Est-ce que tu aurais une anecdote ou un conseil la concernant à nous partager?
Alors le conseil qu'elle nous rabâchait sans cesse, c'est de ne pas dépendre d'un homme. Et je pense que c'est son vécu aussi qui a fait ça. C'est-à-dire qu'elle a toujours été débrouillarde. Ma mère, elle est arrivée en France, elle savait ni lire ni écrire. Mon père, lui, était très instruit. Mais quand elle est arrivée, bon bah voilà, au départ, elle habitait Paris, donc ça allait encore. À Trappes, ça allait encore, étant donné qu'en plus il y avait une très forte communauté noire, donc elle arrivait à se débrouiller. Bah déjà à Trappes, elle commençait à tresser, elle se faisait un petit peu son argent, et très vite elle a compris bah qu'il fallait maintenir une certaine indépendance, en fait. Quand on est arrivé à la campagne, il y avait plus personne à tresser vu qu'il y avait plus de noirs. Elle a réussi à se créer un petit réseau où souvent c'était des enfants de la DAS qui des enfants qui étaient placés, en fait.
Oui.
Bah, parce qu'il y avait des enfants métis ou des enfants noirs avec des mamans blanches qui savaient pas quoi faire de ses cheveux. Donc elle avait réussi à se créer ce petit réseau là. Elle marchait des kilomètres pour aller faire le ménage chez des gens, enfin voilà, elle est jamais restée assise, en fait. Et je pense qu'elle n'aurait pas été capable de divorcer si elle avait pas eu cette indépendance là. Donc ce qu'elle nous a transmis, c'est le fait de toujours rester indépendante et de ne pas dépendre de quiconque, que ce soit d'un homme ou de quelqu'un d'autre. Donc voilà la grande leçon de vie.
Et c'est une belle leçon. C'est vraiment une belle leçon, et ça permet aussi de comprendre aussi un petit peu plus ce que tu fais, le fait de vouloir accompagner des femmes, de vouloir les aider dans la gestion de leur argent, enfin tout ça.
Yes, parce qu'une chose aussi que je ne fais pas, c'est le storytelling. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai un peu de mal.
Ouais.
Ouais, on va dire que je reste en surface. Je parle même pas de moi, en fait. Hein.
Ouais.
Je parle pas de moi. Je vais de temps en temps balancer des petites blagues, machin, parce que j'aime bien. Mais c'est vrai que le podcast, je trouve que c'est un média beaucoup plus intimiste. Mmh. Et là, j'aime bien. Voilà. Tu m'as mise à l'aise. J'ai dit des choses que j'ai jamais dit ailleurs. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir.
Non, tu pourrais, hein, parce que c'est vrai que moi, c'est une réflexion que je me suis faite. Par exemple, tu nous as dit que tu étais partie en vacances, mais tu n'as pas dit où.
J'étais au Sénégal. Au Sénégal.
Ah, trop bien.
C'était magnifique.
Ouais, ah, trop, trop bien. Tes enfants, ils ont aimé?
Ah, ils ont adoré. Franchement, c'était magnifique.
Ah.
C'était magnifique. C'est... Alors, le souvenir qui restera gravé dans ma mémoire, c'est le désert de l'Ampoule.
Ouais.
Qui, malheureusement, sera amené à disparaître, de ce que j'ai cru comprendre.
Ah oui?
Ouais, il semblerait qu'ils aient trouvé du zircon dans, okay. Voilà. Donc, ils vont tout raser. Et...
Ouais.
Alors que c'est un joyau, vraiment, c'est magnifique. Donc, on a passé des super vacances, et c'était top.
Ah, trop bien, trop bien. Vraiment, je suis contente pour vous. Hein. En plus, le faire en famille, avec les enfants et tout, c'est une belle expérience.
Très bien. Vraiment, on a trop, trop, trop kiffé. Les enfants aussi, ils en parlent encore. Et voilà, une des choses que l'argent peut nous aider à faire, quand elle est bien maîtrisée, c'est... dépenser. Moi, j'ai aucune difficulté à dépenser beaucoup pour me créer des souvenirs comme ceux-là qui resteront et dans ma mémoire et dans celle de mes enfants. C'est magnifique. C'est magnifique. Pouvoir apprendre de la culture des autres, leur faire découvrir d'autres valeurs, une autre façon de penser, une autre façon de vivre. C'est, pour moi, ça n'a pas de prix. Mmh. Et une fois que j'ai compris ça, bah, je sais que j'aurai pas de difficulté à ne pas m'acheter de sac à main si je sais que ça se soldera par un voyage.
Ouais,
donc voilà, comme je le disais, l'important c'est vraiment d'apprendre à se connaître et de savoir qu'est-ce qui nous fait réellement plaisir à nous et pas à notre feed Instagram ou pas à la société ou pas à qui que ce soit. En fait, c'est se mettre soi au centre de sa vie et agir en conséquence.
Ouais. Ah, t'as tout dit. Vraiment, là, ta dernière phrase, elle était top. Bah, Citan, je te remercie. Hein, je te remercie encore une fois d'avoir accepté mon invitation, de nous avoir partagé ton histoire, partagé ton business, tes tips. Voilà, c'était super enrichissant et j'espère que les personnes qui vont écouter ce podcast et qui ne te connaissent pas, voilà, vont et qui ont besoin aussi de ça, vont prendre ça comme un signe pour se prendre en main et pour essayer d'améliorer un petit peu leur quotidien.
Je l'espère aussi. Et encore un grand, grand merci à toi pour l'invitation. J'ai passé un très, très bon moment à tes côtés.
Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Salut.
À plus tard. Salut.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me fera super plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Là-bas, je partage des phrases de motivation, des astuces au quotidien. On discute et on se construit une vraie communauté. Le nom de ma page est Ayonene Podcast. À tout de suite.